jeudi 26 mai. Bonjour à tous, bienvenue sur France Inter. Bonjour Anaïs Feugat.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, les petits excès de vitesse ne seront peut-être plus sanctionnés par un retrait de points. Le ministère de l'Intérieur dit y réfléchir en ce week-end chargé sur les routes. Explication dès le début du journal. Les autres titres, Anaïs.
Une chape de plomb sur Uvalde, cette petite ville texane abasourdie par la tuerie d'hier. Rencontre dans ce journal avec l'une des éducatrices à l'écoute des familles. L'autorisation du burkini dans les piscines de Grenoble suspendue par le tribunal administratif hier soir. Et puis deux monuments du foot français pour une seule place en Ligue 1. Barrage aller ce soir entre Auxerre et Saint-Etienne.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec vous Alexandra.
Dans l'affaire Abad, pas d'enquête préliminaire, décision du parquet de Paris. Je reçois l'avocate Rachel Flore Pardo. C'est une spécialiste des questions de violences sexistes et sexuelles. Bientôt 5 ans après MeToo, la parole des femmes a été libérée. Mais est-elle bien écoutée? Rendez-vous à 7h50.
Et à 8h20, nous serons ensemble pour le grand entretien de la matinale consacré à la grotte Cosquer, cette grotte sous-marine préhistorique reconstituée à Marseille. Pour en parler, trois invités, Henri Cosquer, Gabriel Béra et Sophie Becherel. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter. Des millions d'automobilistes jetés sur les routes en ce jeudi de l'Ascension. Premier gros week-end de l'année pour lequel Bison Futé voit rouge aujourd'hui et vous conseille de quitter ou traverser l'Île-de-France avant 7h, les grandes métropoles avant 9h. Ce sera noir sur tout le territoire dimanche. Moment choisi par le ministère de l'Intérieur pour lancer cette réflexion. Ne plus retirer de points sur le permis de conduire pour les petits excès de vitesse. Bonjour Yann Gallic.
Bonjour.
Aucune décision n'est actée, dit le ministère, mais la piste c'est donc ne plus enlever de points, mais conserver les amendes.
Actuellement, pour les excès de vitesse inférieurs à 20 km/h, les automobilistes doivent payer une amende de 68 à 135 euros selon le lieu de l'infraction. Cela ne devrait donc pas changer à l'avenir. Selon les derniers chiffres officiels, en 2020, 58% des amendes concernaient les petits excès de vitesse de moins de 5 km/h. Ces excès, qui la même année en France, représentaient plus de la moitié des 11 millions de points retirés sur les permis de conduire. Alors si le gouvernement met en œuvre cette mesure, cela pourrait surtout profiter aux automobilistes qui passent beaucoup de temps en voiture, notamment pour des raisons professionnelles, et qui perdent régulièrement des points pour des petites infractions.
Et cette piste envisagée par le ministère de l'Intérieur, Yann, fait déjà réagir.
Les associations d'automobilistes y sont évidemment favorables. Certains experts en sécurité routière aussi, comme le chercheur Bernard Laumont.
Aujourd'hui, la sanction est la même qu'on dépasse les vitesses de moins de 10 km/h ou entre 10 et 20 km/h. Or, c'est quand même beaucoup plus dangereux de dépasser les vitesses de plus de 10 km/h que de moins de 10 km/h. Beaucoup des petits excès de vitesse sont involontaires. Quelque part, il n'est pas tout à fait normal que la sanction soit la même.
Les associations de prévention routière dénoncent au contraire une idée absurde qui pourrait inciter les conducteurs à rouler plus vite, au risque d'augmenter la mortalité sur les routes.
Et 2947 personnes sont mortes sur les routes en France en 2021. Cette réflexion sur un sujet sensible, les Français et leurs voitures, intervient opportunément entre la présidentielle et les législatives, pour lesquelles la Macronie cherche toujours la bonne stratégie entre ceux qui pensent qu'il faut rester en retrait et ceux dans la majorité qui veulent faire campagne depuis leur ministère, Maxence Lambrec.
On ne va pas rester là comme des lapins dans les phares de voiture, à ne rien dire, ne rien faire, parce qu'il faut respecter la période de réserve, s'agace un membre du gouvernement. En gros, on devrait être les seuls pimpins à ne pas pouvoir dire ce que l'on va faire. Ils sont plusieurs à réclamer auprès de Matignon une série de communications sur le futur projet de loi pouvoir d'achat. Première victoire hier soir, la convocation d'une réunion demain en plein pont de l'Ascension pour définir, je cite, « les feuilles de route des différents ministres », histoire de dire « regardez, regardez, on travaille ». Alors que pendant ce temps-là, Emmanuel Macron sera avec son épouse au fort de Brégançon. Il a raison, les Français n'ont pas la tête à la politique, estime un conseiller ministériel. Il est bon d'apporter un peu de calme, de sérénité quand d'autres veulent tout hystériser. Éviter les sujets qui fâchent, poser le ballon, comme il dit, ne plus parler de la réforme des retraites, ne pas alimenter le duel contre Jean-Luc Mélenchon. Stratégie qui laisse sceptique de nombreux candidats aux législatives qui espéraient un président en première ligne. À son agenda la semaine prochaine, un conseil européen à Bruxelles. Comme si prendre son temps participait de la nouvelle méthode promise.
Maxence Lambrec, et d'ici là, Emmanuel Macron s'entretiendra tout à l'heure à 11h30 avec le président turc au téléphone depuis Brégançon. La Turquie s'oppose à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. L'OTAN en crise interne alors que l'Ukraine réclame davantage d'armes lourdes face à Moscou qui cherche à s'emparer de la ville de Severodonetsk. Severodonetsk. Le président ukrainien a reconnu hier que la Russie était supérieure en équipement et en nombre de soldats.
7h05, la colère monte aux États-Unis autour de la question des armes.
Au lendemain de la tuerie d'Uvalde, pour laquelle le tueur avait utilisé un fusil d'assaut AR-15 prévu pour faire le plus de victimes possible en un temps record, il a réussi à tuer 19 écoliers et 2 enseignantes alors que la police était sur place. Dans cette petite ville isolée, les habitants sont partagés entre deuil et effroi. Notre envoyé spécial, Sébastien Paour, a rencontré une des éducatrices qui écoute les familles dans une salle de la ville à l'abri des regards. Il l'a croisée à la sortie de sa séance.
Caroline Delecourt se présente comme éducatrice en matière de deuil.
I am a grief educator.
Elle est venue de San Antonio dès le lendemain du drame pour soutenir ce qu'elle appelle la grande famille du sud du Texas. La native d'Austin a perdu un fils dans une avalanche il y a 18 ans. Il lui semblait naturel de venir proposer son aide ici, mais elle ne dira rien des récits qui lui sont faits. Elle se contente de décrire les animaux à l'intérieur que les enfants peuvent caresser pour se changer les idées. Il y a beaucoup de chiens de thérapie, j'en ai vu au moins 12. Certains bénévoles sont venus avec de grandes caisses de jeux pour les enfants, comme de la pâte à modeler pour les occuper. Il y a beaucoup de larmes. Elle ne parle presque pas, elle écoute. Mon travail est d'essayer d'arranger quelque chose. Ce n'est pas mon rôle de donner des conseils. Il n'y a rien à dire. Mais je pense que ce que j'ai appris à faire, c'est d'écouter leur chagrin, pour leur faire savoir que je suis là. Je suis essentiellement à l'écoute. Et parfois, quand elle sent qu'elle peut le faire, elle prend ses interlocuteurs dans ses bras. Parce que j'aime enlacer les gens. Beaucoup de gens dans le sud du Texas font des câlins. Enlacés, dit-elle, pour réconforter, comme s'il s'agissait de quelqu'un de la famille. Uvalde, Sébastien Paour, France Inter.
Joe Biden, lui, est attendu au Texas avec son épouse dans les prochains jours. Et puis toujours au Texas, Donald Trump a confirmé qu'il parlerait demain à l'Assemblée annuelle du lobby pro-armes de la NRA. Alors qu'au Brésil, le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, félicite ses policiers après l'opération d'hier dans une favela de Rio. 25 personnes tuées par la police militaire dans une opération contre les narcotrafiquants. Parmi les victimes, une habitante de 41 ans tuée par une balle perdue chez elle dans la favela.
Pas encore entrée en vigueur et déjà suspendue.
Le nouveau règlement des piscines de Grenoble, en tout cas son article 10, qui n'interdit pas le burkini. Le tribunal administratif a rendu son jugement hier soir, saisi par la préfecture d'un référé laïcité, une nouvelle disposition introduite par la loi séparatisme. La mairie fait appel devant le Conseil d'État qui va devoir être en pointe sur cette notion, analyse Patrice Pinozzi, avocat spécialisé.
C'est une décision assez créative. On pouvait penser que la question de la laïcité n'avait pas vocation à s'appliquer aux usagers d'une piscine et c'était le sens de la jurisprudence du Conseil d'État, mais le tribunal administratif a été plus loin et a considéré que à partir du moment où on changeait la règle commune pour des raisons qui étaient des raisons religieuses, eh bien il y avait là une atteinte au principe de la neutralité du service public. Donc il va y avoir un appel, ce qui a été dit et déclaré déjà par la commune. On verra bien quelle va être la position du Conseil d'État, mais on pouvait penser que le recours du ministère était assez fantaisiste et en réalité, il se trouve assez fondé par cette argumentation assez nouvelle qui est proposée par le tribunal administratif.
L'avocat Patrice Spinozzi, spécialisé en droit des libertés fondamentales. Un an de prison avec sursis requis contre l'ancien ministre Alain Griset. L'ex-ministre délégué au PME est jugé à Lille pour avoir placé de l'argent d'une organisation patronale sur son PEA personnel. On a affaire à quelqu'un mu par l'avidité, la cupidité, a dénoncé la procureure. Jugement fin juin. Allez, on prend les masques, les tubas et on plonge au milieu des coraux. Vous allez voir, c'est comme si on y était grâce aux chercheurs bioacousticiens. Ils enregistrent les bruits de la nature et nous dévoilent avec ces paysages sonores des informations sur la santé des récifs coralliens. Hier soir, une chercheuse américaine a présenté des enregistrements des côtes hawaïennes et Sophie Bécherel, on est loin du monde du silence de Cousteau.
Ce que l'on entend là, c'est un récif corallien en pleine santé. Plus il y a de bruit de poissons et d'autres organismes, et plus ils sont variés, meilleur est l'état du corail. Une preuve apportée dès 2015 sur le récif de Moorea par les chercheurs du CRIOB, un laboratoire CNRS basé en Polynésie. Mais il reste beaucoup à étudier, selon Frédéric Bertucci, chercheur au CRIOB.
Il y a beaucoup d'études qui sont portées sur les sons produits par les poissons, mais on sait encore très peu, par exemple, sur les sons produits par tout ce qui est invertébré. Ça peut être les oursins, les crevettes, les crabes, ce qu'on appelle la faune cryptique, puisqu'elle vit cachée, on la voit pas, mais par contre on l'entend. Et c'est d'ailleurs la source de son qui domine les récifs coralliens.
Une autre voie à explorer concerne l'impact de la pollution sonore produite par les hommes. Bateaux de pêche, de croisière, jet ski, autant de sources de bruit qui stressent les poissons. Les coraux aussi sont gênés.
Lorsqu'on diffuse du bruit de bateau, les larves de coraux ne se fixent pas sur leur substrat préférentiel. Elles vont aller se fixer sur un substrat qui n'est pas viable. Ça peut aussi du coup avoir un impact sur la résilience des récifs coralliens.
L'intérêt de ces études acoustiques, c'est qu'il est possible d'agir et de diminuer la pollution humaine. Les récifs coralliens s'en porteront mieux et avec eux, la quantité de poissons qui y vivent et font vivre les communautés locales de pêcheurs.
Et les coraux, on en parle encore aujourd'hui sur Inter avec les dernières nouvelles de la grande barrière de corail à 14h dans la Terre au Carré avec Mathieu Vidard. Mission réussie pour Starliner, la capsule de Boeing. Elle a atterri dans la nuit sans encombre après avoir ravitaillé la Station Spatiale Internationale. Enjeu immense pour Boeing qui pourrait devenir avec SpaceX le deuxième moyen de transport de la NASA vers l'ISS. En tennis, elle confirme son exploit du premier tour. Diane Paris atteint pour la première fois le troisième tour de Roland-Garros après avoir expédié la Colombienne Camila Osorio. Corentin Moutet, lui, a perdu en 3-7 contre Rafael Nadal. Eux ont leur prochaine saison au bout des crampons. Match de barrage aller ce soir pour savoir qui d'Auxerre, 3e de Ligue 2 de football, ou de Saint-Etienne, 18e de Ligue 1, jouera dans l'élite à la rentrée. Deux institutions du football français. Et ce soir, c'est Auxerre qui reçoit Nicolas Perronnet.
Toute la ville d'Auxerre veut croire en la remontée de l'AGIA. Les fanions du club ornent les boutiques et les commerces du centre-ville. Vendredi dernier, en pré-barrage face à Sochaux, le stade Abbé Deschamps était à guichet fermé. Ce sera encore le cas ce soir. Plus de 17 000 personnes attendues pour ce barrage aller contre Saint-Etienne. Cyril, aux anges, rien que d'imaginer la JO Serre tout proche de remonter en Ligue 1, 10 ans après la relégation.
C'est magnifique, ça fait revivre la ville, là on est vraiment au top du top. J'espère qu'on va bientôt pouvoir revivre la Ligue 1 et là je pense qu'on va être bien, on va être bien au Serre.
Avec à sa tête James Zhou, un milliardaire chinois arrivé à Auxerre en octobre 2016. Le club aux 1196 matchs en première division et 128 en Coupe d'Europe retrouve des couleurs et n'a jamais été aussi près de retrouver l'élite. Jean-Marc Furlan, l'entraîneur auxerrois.
Ce que je ressens profondément, c'est surtout l'enthousiasme, la joie qu'on a connue que cette année, qu'on n'avait pas connue avant. C'est-à-dire un enthousiasme, un plaisir et une joie fantastique. Nous, ce qu'on veut, c'est Auxerre en Ligue 1.
Le défi reste cependant immense pour la JO Auxerre. Aucun club de Ligue 2 n'a réussi à monter en Ligue 1 depuis l'instauration de cette formule de play-off lors de la saison 2017-2018.
Coup d'envoi à 19h ce soir avant le match retour dimanche. Et puis l'AS Roma soulève le premier trophée de la nouvelle Ligue Europa Conférence. 1-0 à Tirana contre le Feyenoord Rotterdam hier. C'était l'histoire à écrire, dit l'entraîneur de la Roma, José Mourinho. Spécialiste des finales. C'était pour lui son 5e titre européen.
Merci à vous Anaïs Feuga pour ce journal. Dans 3 minutes, le Zoom, nous serons à Quimper-Guézennec, petit village breton qui ne veut pas mourir.